théologienne. Vous êtes auteur de La grâce d'être femme, un livre qui a été écrit il y a environ 12 ans et qui est actuellement traduit en plusieurs langues, en japonais, en arabe, en vietnamien. Je voudrais vous poser quelques questions à propos de la vocation de l'homme et de la vocation de la femme. Madame Badinter a affirmé il y a peu de temps, en parlant de l'homme et de la femme, l'un est l'autre, l'un pouvant remplacer l'autre. Aujourd'hui, l'homme et la femme ne savent plus ce qui détermine leurs différences, confondant souvent égalité et similitude. L'homme et la femme sont dépouillés de leur mystère, tout ceci entraînant une dégradation croissante des mœurs et des valeurs en général. Pourtant, Dieu lui-même, à travers le livre de la Genèse, nous éclaire sur son projet pour l'humanité, à travers l'homme et à travers la femme, et il nous révèle l'identité profonde de chacun. Est-ce que vous pourriez nous aider à discerner dans les récits de la création le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme ?
Oui, effectivement, il faut revenir à la Genèse pour le fondement de l'identité propre de chacun. Il faut revenir au livre de la Genèse et Jésus lui-même y renvoie les pharisiens lorsqu'il lui demande de prendre parti pour ou contre le divorce que Moïse a autorisé. Il leur dit « au commencement ». Pourquoi revenir à la Genèse alors qu'il semble que c'est finalement l'histoire du péché et de la séparation de Dieu et de l'homme ? Et je crois que là, nous avons gauchi le message de la Genèse en le réduisant un petit peu au message uniquement sur le péché originel. C'est d'abord tout le projet de Dieu sur l'homme et la femme qui n'est pas que le péché a amoindri, a comme voilé, mais qui n'a pas enlevé, car les dons de Dieu ne se reprennent pas. C'est une très vaste question que vous me posez. Essayons de lire ensemble ce qui nous est dit dans la Genèse. J'essaierai de le faire rapidement, car c'est d'une richesse extrême. Nous apprenons là l'essentiel. Il y a deux récits de la création. Le premier récit est le récit dit sacerdotal et date d'à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Dans ce récit, qui est une sorte de longue liturgie de la création, de bénédiction, faisant état de la bénédiction de Dieu sur toute chose créée, nous voyons Dieu s'arrêter en quelque sorte dans un pluriel mystérieux. Il a créé toute la création sur sa lancée. Et voilà qu'il s'arrête, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Je crois que nous avons là quelque chose de tout à fait fondamental, qui est que l'homme et la femme, séparément, et l'homme et la femme ensemble, sont destinés à être l'image de Dieu à sa ressemblance, c'est-à-dire par étapes de ressemblance en ressemblance, l'homme et la femme et le couple humain sont appelés à signifier quelque chose d'essentiel de Dieu, et l'essentiel même, c'est-à-dire que Dieu est amour, que Dieu un et trine. À partir de là, s'enracine le pouvoir que Dieu peut, la bénédiction de Dieu d'abord, Dieu les bénit, et puis le pouvoir qu'il leur donne de sur le monde, tout le monde créé. Dans le deuxième récit, qui est beaucoup plus ancien et qui est une sorte de parabole, on dit un mythe, personnellement je préfère dire une parabole, dont la vérité est anthropologique et n'est pas historique, bien sûr. Nous voyons comment, dans cet ancien récit, la création de l'homme et la création de la femme ne sont pas exactement en coïncidence. Dieu crée l'homme, l'Adam, le terreux. Il le crée à partir de quelque chose qui existe déjà dans la création, qui est symbolisé par la glaise du sol, par la terre. Mais il y a homme à partir du moment où Dieu insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Il y a donc dans homme, à partir du moment où dans une réalité de la terre, une réalité déjà créée, Dieu anime cette réalité avec son propre souffle, avec son propre esprit. L'homme devient un être vivant à partir du moment où il est à la fois fabriqué de terre et en même temps révélateur de l'image, de la ressemblance à Dieu par le souffle même de Dieu. Il nous est dit ensuite que le Seigneur planta un jardin et qu'il y plaça l'homme. Il n'est pas indifférent de voir que ce jardin s'appelle l'Éden, c'est-à-dire le jardin du bonheur.